Deux versets à lire en introduction et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 13, les versets 7 et 8. Romains chapitre 13, les versets 7 et 8. Je ne vous demande plus si vous avez vos Bibles, pour moi c'est tellement évident. Alors je vous laisse le temps quand même de pouvoir chercher tranquillement cette référence dans le Nouveau Testament, de préférence. Romains chapitre 13, du verset 7 au verset 8 et nous lisons ensemble. Alors avez-vous trouvé ? Romains chapitre 13, versets 7 et 8. Rendez à tous ce qui leur est dû. Deux points. L'impôt à qui vous devez, l'impôt. Le tribut à qui vous devez, le tribut. La crainte à qui vous devez, la crainte. L'honneur à qui vous devez, l'honneur. Et puis enfin, verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. » On l'a compris tous ensemble dans le texte que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul bien sûr qui s'exprime, et il met bien sûr en évidence certains devoirs que le croyant, que le chrétien qui se respecte doit bien sûr honorer dans sa propre vie chrétienne. Et je voudrais très rapidement entrer dans le vif du sujet et peut-être vous présenter deux devoirs, deux grands devoirs du chrétien. Le premier devoir nous parle de justement nos devoirs envers la société. On l'a lu au verset 7, il nous est dit « Rendez à tous ce qui leur est dû. » L'impôt. À qui vous devez l'impôt? Là, j'aurais aimé entendre un amen. Le tribut ou la taxe, c'est pareil, hein. À qui vous devez, eh bien, le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, et enfin l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Alors, que veut nous dire, bien sûr, l'apôtre Paul au travers de ce verset 7 et quelque part, que veut nous dire le Saint-Esprit au travers de cette lecture? Premièrement, eh bien, le chrétien qui aime Dieu. Je précise, le chrétien, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'appelle chrétien, hein. Tout le monde est chrétien aujourd'hui, tout le monde croit en Dieu. Le chrétien qui aime Dieu, il doit payer ses impôts et ses taxes. Et il doit les payer au gouvernement en place, aux autorités qui sont établies eh bien, dans notre pays. En tant que citoyen français, avant eh bien, d'être bien sûr citoyen des cieux, on est bien sûr citoyen français. Et en tant que citoyen eh bien, français, nous avons des droits et bien sûr des devoirs que nous devons quelque part honorer. Le chrétien qui aime Dieu refuse d'utiliser, et là on rentre vraiment dans le vif du sujet, toute forme de ruse, toute forme de fraude pour essayer de se soustraire à ses devoirs, j'ai envie de dire, ses devoirs civiques. Amen ou pas amen? Encouragez-moi. Hein. J'ai déjà raconté ici en ces lieux ce qu'a été mon expérience, c'est plus facile de parler de soi-même. Et j'avais contracté, plutôt mes parents avaient contracté un prêt, parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour m'aider à pouvoir poursuivre les études. Donc j'ai dû signer en bas à droite, un endroit où je ne voulais pas forcément signer, puisqu'il était quand même question de 15 000 euros de prêt. Et je n'avais même pas 20 ans que j'étais déjà endetté quelque part. Mais rendez-vous compte, et ça a été mon expérience, il fallait juste à un moment donné que je fasse silence pour qu'en retour je puisse être quelque part épargné, être quelque part soustrait de pouvoir rembourser eh bien, ce prêt d'honneur. Et puis on m'a encouragé à le faire, on m'a dit, mais Joël, tu sais, eh bien, parce que pour rembourser le prêt d'honneur, il faut, quand vous avez fini vos études, eh bien, juste signaler eh bien, que vous êtes prêt à pouvoir rembourser. Remboursement sans intérêt. Et on m'a encouragé à dire, mais Joël, tu ne dis rien. Tout le monde le fait. Et ça marche. Et croyez-moi que la tentation était bien là, bien présente. S'affranchir d'un remboursement de 15 000 euros. Alors à l'époque, c'était les francs français. Ramenez ça aux francs français, mes amis. Mais Dieu m'a fait la grâce de pouvoir, bien sûr, à l'instant T, me rappeler que si on peut cacher les choses aux yeux des hommes, on ne peut pas cacher au niveau de Dieu. Dieu attend de ses enfants qu'ils soient intègres et droits dans les affaires de la vie. Alors si ça dérange ce que je dis ce matin, c'est bon signe. Parce que la Bible est un marteau qui brise le roc. Un feu qui est capable de consumer eh bien, ce qui a besoin encore d'être consumé. afin que, eh bien, notre cœur soit pleinement sanctifié. Lorsqu'on agit ainsi, lorsqu'on choisit le chemin de l'intégrité, le chemin de la droiture, quelque part, eh bien, nous marchons sur le chemin de la sanctification, le chemin de la justice, le chemin de la sainteté. Et bien sûr, on avance sur le chemin de la foi avec une conscience pure. Il faut que nous ayons toujours une conscience pure. Vous avez vu l'enchaînement que va faire, eh bien, donc l'apôtre quand il va dire, eh bien, certains ont fait, ont corrompu leur conscience et à cause de ça, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est un enchaînement. Et il est important, eh bien, même pour louer le Seigneur ce matin, eh bien, qu'on soit serein au niveau de notre conscience. Amen, frères et sœurs. Il est important de payer nos impôts et qu'on le fasse avec joie. Or, c'est souvent à la rentrée que ça tombe. En même temps, il y a les feuilles qui tombent, les feuilles des arbres, l'automne. En même temps, il y a les feuilles des impôts qui tombent. Dimanche dernier, j'avais posé la question, est-ce qu'il fallait, eh bien, qu'un chrétien qui a une grande télé, puis, écran plat, hein, plasma, est-ce qu'il doit déclarer sa feuille d'impôt, oui ou non, qu'il a une télé? Je sais pas pourquoi j'insiste, hein. Alors d'un côté on dit Seigneur sanctifie-moi et puis quand il nous parle on est dérangé ou même on s'en prend au pasteur. Je ne dis uniquement ce que Dieu me demande de dire. Si je fais autre chose, je ne serai pas serviteur de Dieu ce matin. Le chrétien qui aime Dieu, il est en règle avec les choses de la terre. J'aurais pu prendre cet exemple de Daniel. On a essayé de le coincer dans les affaires qui concernent les affaires de la société. Ils ont trouvé rien. Parce que Daniel a choisi d'être fidèle dans les moindres choses. On découvre aussi dans ce verset 7, eh bien, qu'il nous faut également témoigner d'un certain respect, une certaine crainte à l'égard des autorités qui sont établies parmi nous. Le chrétien doit honorer toute personne occupant une fonction officielle dans la société. Même si, eh bien, tout ce qu'on peut entendre, tout ce que, eh bien, les gens peuvent décider ne nous convient pas. Ou nous ne sommes pas en accord avec eux. Mais je nous pose cette question ce matin. Est-il bien, devant Dieu, de dénigrer ou de mépriser, par exemple, le chef de l'État, ou même un membre de son gouvernement? Je suis vraiment étonné que certains chrétiens soient farouchement opposés à tout ce qui peut s'appeler autorité, à toute forme d'autorité. Et on peut généraliser la chose. Il y en a, ils veulent se soustraire ou deviennent toujours rebelles, eh bien, par rapport à l'autorité, quelle que soit l'autorité. Ça peut être l'autorité qui se trouve au niveau, eh bien, de la famille, parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il a prévu même l'autorité au niveau, eh bien, de la famille, au niveau d'un couple. Pas pour rien qu'il a dit que l'homme est le chef de la femme. Amen, oui, mais attention. Il y a chef et chef. Chef ne veut pas dire coq. Ah, les sœurs ont réagi, hein. À ce chef-là, Dieu dit, tu aimeras ton épouse comme Christ a aimé l'église. Et je vais être honnête avec vous, j'ai besoin de faire d'énormes progrès à ce niveau. Et je pense que je suis pas le seul. Autorité au niveau de l'église, bien sûr. Parce que c'est un Dieu d'ordre. On fait pas n'importe quoi, chacun part, tout ça, etc. Les seuls qui ont à un moment donné essayé de se rebeller par rapport à l'autorité, c'est, en plus, des personnes qui ne sont pas négligeables. Marie et son frère Aaron. Attends, Dieu parle par Moïse, mais nous aussi. Et Dieu les a mis à l'écart. Hein. Ah bien, cette même autorité, on la trouve aussi dans les choses de la terre. Parce que Dieu, là aussi, est un Dieu d'ordre. Et on comprend pas que finalement, lorsqu'on repousse ou on méprise l'autorité que Dieu a mis en place, même dans un pays tel que la France, on est en train, lorsqu'on résiste à cette autorité, on est en train, ni plus ni moins, de s'opposer à Dieu sans s'en rendre compte. Et pire encore, notre rébellion pourrait attirer sur nous une condamnation, même une sanction. Je donne un exemple, quelqu'un qui rebelle, par exemple, par rapport à l'autorité, les autorités policières. Une fois, deux fois, à un moment donné, eh bien, la sanction elle va tomber, hein, sous forme d'amende ou bien même une arrestation. Amen ou pas amen? Tout ça, ce sont des réalités. C'est ce que bien rappelle l'apôtre Paul, toujours dans ce même chapitre 13, au verset 1 et 2. Les versets 1 et 2. Romains 13, verset 1 et 2. Regardez. Il est intéressant tout ce chapitre. On n'a pas le temps de relire tout le chapitre 13. Mais regardez avec moi Romains chapitre 13, du verset 1 au verset 2. C'est très clair. Il nous est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car, mais c'est extraordinaire, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est un résumé de ce qu'on vient de partager. Toute autorité, quelle qu'elle soit, elle vient de Dieu. Quelquefois, il s'agit de voir comment on réagit dans la société pour savoir comment on va réagir vis-à-vis des choses de Dieu. Tout ça, c'est intimement lié. Dieu a institué l'ordre dans la société, parce que c'est un Dieu d'ordre, par différentes autorités qu'il a lui-même mis en place. Et ces autorités servent quelque part de cadre. Il nous faut un cadre. Autrement, ce serait quoi? Ce serait l'anarchie. On parle du peuple d'Israël qui, à un moment donné, dans le livre des juges, chacun faisait ce qui lui plaisait. Si on faisait ici ce matin chacun ce qui nous plaît, ce serait la débandade. Mais il n'y aura pas ça ici parce que celui qui gouverne, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Et j'aime à le répéter, c'est pas mon église, c'est celle du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui a toute autorité et c'est lui qui est capable de sanctionner quand il le faut. Pour nous, enfants de Dieu, nous avons choisi de sanctifier le nom de Jésus. C'est le thème, je le rappelle, pour notre marche tout au long de cette année. On veut se sanctifier jour après jour. Et pour cela, il nous faut, bien sûr, accomplir fidèlement, j'insiste, accomplir fidèlement tout ce que Dieu nous commande de faire dans sa parole. D'où la raison d'être, de pouvoir prendre en compte ce que Dieu nous a dit au travers du don spirituel tout à l'heure. On a besoin de lire la parole de Dieu. Comment saurais-je ce que Dieu veut véritablement de ma vie? Comment pourrais-je marcher sur le chemin de la sainteté si je ne prends pas le temps de lire et de méditer la parole de Dieu? Et il nous parle ce matin, au travers de Romains chapitre 13, les versets 7 et 8. Il nous parle par différentes façons, par différents témoins. On peut prendre un autre passage, 1 Pierre chapitre 2, du verset 13 à 17. Ne le cherchez pas, je pense qu'il sera sous l'écran. Oui, super. 1 Pierre chapitre 2, verset 13 à 17. « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. » Et on continue au verset 16. « Étant libre, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » J'ai envie de dire comme des ouvriers de Dieu, comme on l'a vu dimanche dernier. « Honorez. » Alors là, c'est plus seulement les autorités. Finalement, honorer tout le monde. Il faut ce respect. Il faut ce respect dans l'Église. Il faut du respect par rapport à celui qui est à votre droite, à votre gauche. Quelquefois, et peut-être moi le premier, on réalise pas qu'au travers d'une personne qu'on voit physiquement, il y a toute une histoire derrière. C'est une âme qui a un prix, qui a une valeur aux yeux de Dieu. Il y a un parcours. On méprise pas, au contraire, on honore et on honore tout le monde. On aime les frères, on y reviendra tout à l'heure. On craint Dieu, mais aussi on honore le roi. Autrement dit, pour nous, on n'est plus sous la royauté, on honore le président. Alors on cautionne peut-être pas forcément tout ce que peut dire le gouvernement, mais on peut prier pour lui, ne serait-ce que pour son salut. Amen ou pas amen? C'est tellement important. On est dans le monde. Mais, on ne fait pas comme le monde. Il faut qu'on se rappelle, en tout cas, ce que Jésus a dit à ses disciples dans Luc chapitre 16 et le verset 10. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, il l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dis-moi comment tu vis, de manière horizontale. Montre-moi ta vie dans la société et je te dirai quel est ton service, quel est ton amour, quelle est ta foi aussi vis-à-vis de Dieu. Tout est intimement lié. La foi, on ne la vit pas seulement le dimanche matin, quand on se retrouve. Mais la foi, c'est ce que tu es au quotidien. C'est ce que tu dis. C'est ce qui sort de ta bouche. C'est ce que tu vis. Surtout, eh bien, lorsque tu es, eh bien, peut-être caché des frères et des sœurs. Parce que là, dans le secret, Dieu, il te voit. Il nous voit. Et il veut qu'on soit de véritables chrétiens les uns les autres. Amen, frères et sœurs. C'est sûr et certain. Si je ne suis pas fidèle et juste dans les choses physiques de cette terre, soyons sûrs, eh bien, je ne serai pas non plus un fidèle dans les choses spirituelles du ciel. Et nous, nous voudrions non seulement être fidèles dans les choses de cette terre, mais plus que jamais être fidèles dans les choses, eh bien, qui concernent le royaume de notre Seigneur. Amen. Voilà un premier devoir, nos devoirs envers la société. Et j'arrive très rapidement au deuxième point qui va, eh bien, nous intéresser davantage. On a aussi, eh bien, un devoir. Devoir envers le prochain. On l'a lu ensemble au verset 8. Si on peut revoir à nouveau Romains 13, versets 7 et 8. Il nous est dit, Romains 13, versets 7 et 8, on va relire même le verset 7, « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Et on arrive au verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli toute la loi. » Oh, c'est bien. Merci Seigneur pour ce résumé. En nous aimant les uns les autres, eh bien, on est en train d'accomplir toute la loi. Pas quelques commandements, mais toute la loi, que Dieu soit béni. Ne devez rien à personne. Déjà, il y a peut-être une remarque à faire par rapport à cette première partie, donc, de verset. Vous savez, quand Paul dit ne devez rien à personne, il n'est pas en train de dire ne faites jamais d'emprunt, ne contactez jamais de prêt auprès d'une banque. C'est pas ce qu'il est en train de dire, là. Parce qu'on voit quelquefois circuler toutes sortes de doctrines. Ah, mais il ne faut jamais contracter. C'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Non, Paul nous dit ici, si tu dois de l'argent à une personne, ou si tu as emprunté de l'argent, acquitte-toi de ta dette au moment opportun. Si par exemple, demain tu vas aller voir ton banquier et tu vas bien voir auprès de ton banquier un prêt pour pouvoir bien acheter cette voiture qui est nécessaire parce que tu as besoin d'une voiture pour aller au travail et tu n'as pas cet argent. Ce que bien le Seigneur veut nous dire, c'est que bien si le prêt t'a été accordé et que tu as signé pour t'engager par exemple de payer ou de rembourser ce prêt tous les 10 du mois, fais tout ton possible, eh bien, pour respecter, pour honorer cet échéancier, ou non. C'est ça qu'il est en train de dire. Ne devez rien à personne. Soyez à jour de toutes vos dettes. Parce qu'il y en a qui prêtent, enfin, qui reçoit un prêt, mais qui rend pas. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes, le méchant, il emprunte, mais il ne rend pas. Mais nous sommes bien les enfants de Dieu et nous voudrions même dans ces points-là être fidèles, alléluia, devant Dieu et surtout bien devant les hommes. En fait, donc, ce verset 8, on peut l'exprimer d'une autre façon. C'est la version Parole Vivante qui nous l'exprime. Il dit donc au verset 8, je le lis dans la version Parole Vivante, ne restez redevable de rien à personne, sauf d'aimer, car l'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. Aïe. D'ailleurs, celui qui aime satisfait à toutes les obligations de la loi. J'ai trouvé cette version un peu plus explicite. En fait, qu'est-ce que l'apôtre Paul il est en train de nous dire au travers de ce verset 8? Si aujourd'hui vous êtes à jour de toutes vos dettes, à l'égard de la société ou même à l'égard des personnes, il faut que vous sachiez qu'il vous restera néanmoins toujours une dette dont vous ne vous acquitterez jamais. Et quelle est cette dette? Celle qui consiste à aimer le prochain. Alors il faudrait regarder celui qui est à votre droite ou à votre gauche et lui dire, j'ai une dette envers toi. Je dois t'aimer. C'est vrai. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Et cette dette-là, elle va perdurer. C'est une dette qui est perpétuelle. L'amour restera toujours une dette perpétuelle à l'égard du prochain. Vous savez, je vais vous ouvrir mon cœur, j'ai horreur des dettes. Dès que je fais un emprunt, il me faut chercher à pouvoir rembourser la personne. Et puis surtout, quand je la vois, ma conscience me rappelle. Parce qu'il y en a, ils ont tué leur conscience. Mais nous, plus que jamais, nous chrétiens, on a notre conscience qui est éveillée, excitée par le Saint-Esprit. Et quand je vois la personne, je pense à la dette. Alors quand on regarde notre frère ou notre sœur, on comprend qu'il faut l'aimer. Il faut qu'on ait cette même réaction. Je dois l'aimer. Ah, il me casse les pieds, mais je dois l'aimer quand même. Ah, il est différent de moi, mais je dois l'aimer quand même. Ah, il peut être si éloigné, si différent. Je bénis le Seigneur, il y a des blancs, des blacks, des beurs. Quelqu'un osait dire à un collègue, « Ah, Joël, tu as colorié l'église. » C'est pas moi qui ai colorié l'église, hein. C'est le Seigneur qui veut que nous soyons une seule et même famille et que nous puissions nous apprécier, nous aimer les uns les autres. Si je n'aime pas mon frère qui est en face de moi, arrêtons, on peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la Bible. Mais si tu as ce problème, mon frère, ma sœur, Dieu guérit les cœurs. Il guérit les corps, mais il guérit les cœurs. Si on a du mal avec une race, frères et sœurs, mettez-vous à genoux, hein, et demandez au Seigneur qu'il puisse eh bien changer la donne. Parce que Dieu, quand il vient dans notre cœur, il nous permet de pouvoir aimer même ce qui n'est pas aimable. Parce que Dieu, il nous a aimés d'un amour infini, éternel. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Tant que je suis donc sur la terre, mon principal devoir à l'égard de mon frère, de ma sœur, mais aussi à l'égard eh bien du prochain en particulier, en général, c'est eh bien d'aimer. Alors la question, elle est pratique, et je la veux pratique, et je vais terminer par cela. Comment remplir ce devoir? J'ai une dette, j'ai compris que je dois aimer mon frère, ma sœur, mais comment remplir ce devoir? Comment finalement rembourser cette dette d'amour, si on peut l'appeler ainsi? Et je veux répondre tout simplement eh bien, en laissant la parole de Dieu nous parler. Est-ce que vous aimez écouter la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez eh bien la recevoir avec douceur, la laisser travailler? Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous dis, que je vous ai partagée. Et si, tranquillement sur notre chaise, sans penser eh bien au poulet qui mijote, mais en se concentrant sur la parole, Dieu est capable de faire un travail, alors que vous êtes tranquillement assis sur votre chaise. Comment faire pour rembourser cette dette d'amour? Comment remplir ce devoir? Je dois aimer mon frère, je dois aimer ma sœur. Il faut que ça soit concret. Il faut que les autres, eh bien, les gens du dehors puissent le voir. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Premièrement, je vais remplir, eh bien, ce devoir en recherchant le bien du prochain. Prenez des notes, prenez un stylo, une feuille. Je vous donne quelques versets. Matthieu chapitre 7 et le verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Autrement dit, si on voulait résumer toute la loi de l'Ancien Testament, la loi, eh bien, donc judaïque, et si il fallait résumer tout ce que les prophètes ont dit de la part de Dieu, eh bien, on peut le résumer par ce verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors la question, elle est là aussi, elle s'impose. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre conjoint fasse pour vous? Et qui vous ferait énormément plaisir. Ah, si un tel pouvait faire ça, si ma femme pouvait faire ça. Ou bien, qu'est-ce que vous aimeriez que vos amis, vos voisins, ah, qu'ils baissent la radio, hein, qu'ils baissent le poste, surtout qu'ils baissent le poste. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos frères en Christ fassent pour vous et qui réjouiraient votre cœur et qui vous feraient du bien? Eh bien, écoutez-moi, toutes les réponses qui viennent à votre esprit en cet instant sont ni plus ni moins des actes d'amour que Dieu vous demande de faire. Tu aimerais qu'on le fasse pour toi? Alors donne l'exemple et fais-le pour les autres. Vous savez, on comprend, on entend la parole de Dieu, mais il y a une différence entre le fait d'entendre la parole de Dieu et le fait de l'écouter, dont le but, eh bien, de la mettre en pratique. Voilà une clé, voilà eh bien quelque chose que Dieu est en train de te donner pour que tu puisses eh bien réellement honorer, respecter cette dette, c'est-à-dire celle de pouvoir aimer ton prochain. Un autre exemple, Zacharie chapitre 8 verset 16 et 17. Alors là c'est flagrant. Zacharie chapitre 8 les versets 16 et 17. Est-ce qu'on l'a sur l'écran? Zacharie chapitre 8 du verset 16 et à 17. Alors je vais le chercher, parce qu'on l'a pas sur l'écran. Zacharie chapitre 8 verset 16 à 17. Voici ce que vous devez faire. Alors c'est direct, hein. Tu es venu avec cette question. Qu'est-ce que je dois faire dans ma situation à l'égard de mon prochain, celui qui me casse les pieds, même à l'égard de mon ennemi? Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Ça commence par là. La vérité, dire la vérité. Même au niveau, au sein des couples, dire la vérité. Voilà ce que ton conjoint a besoin d'entendre, la vérité. Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te peine? Qu'est-ce qui t'attriste? Voilà ce qui manque. Peut-être même parmi les, eh bien, le peuple de Dieu, être vrai vis-à-vis de l'autre. Il y a la manière, bien sûr, de le dire. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Là aussi, c'est un autre point. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Vous voyez la nuance? Et ce qui a été rajouté, et ça a été inspiré par Dieu, en vue de la paix. Parce qu'il y en a qui disent la vérité, mais pas forcément en vue de la paix. Et ça s'appelle de la médisance. Je vais dire une vérité, mais dans le but de nuire l'autre. Mais là, il est dit, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. La paix, elle est pacifique, elle est constructive. Et quand on est un artisan de paix, on ne cherche pas même à dire la vérité, eh bien dans le but de nuire, mais on cherche à dire la vérité, eh bien pour construire, pour réparer, pour restaurer, pour réconcilier. Et c'est en cela, eh bien qu'on devient, comme on l'a dit dimanche dernier, eh bien ouvrier avec Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit encore? Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Voilà un premier point, en recherchant le bien du prochain, en s'appliquant eh bien, à pouvoir désirer le bonheur d'autrui, c'est en cela eh bien, que je peux pleinement honorer, respecter la dette d'amour que j'ai à l'égard de mon prochain. Mais il y a aussi notre réponse, en pardonnant le prochain. Alors j'aurais aimé entendre un amen. Parce que le pardon reviendra toujours en boucle. C'est un problème récurrent. Et c'est pour cela que, eh bien, Jésus nous invite à pouvoir, eh bien, nous pardonner les uns les autres. Comme d'ailleurs lui-même nous a pardonné. Il a pardonné l'énormité de notre péché. Et vous savez de quelle manière il l'a fait. Sur ce bois infâme, il y a déjà 2000 ans de cela. Il a payé le prix fort. C'est de sa vie qu'il a payé pour nous pardonner. C'est pour ça qu'en retour, il exige que nous puissions pardonner. Et si on n'arrive pas, si c'est difficile pour nous, Dieu est tout puissant pour nous donner la force, même de pardonner l'impardonnable, frères et sœurs. Mais parce qu'on aime Dieu, eh bien, on veut obéir à sa voix et jamais se laisser enfermer. Et Éphésiens chapitre 4, verset 32, notez-le, ne le cherchez pas. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment je dois, eh bien, régler cette dette d'amour que j'ai à l'égard de mon frère, de ma sœur, à l'égard de mon prochain en général? Eh bien, en répondant aux besoins du prochain. 1 Jean chapitre 3, versets 17 à 18. Là aussi un verset que je veux placer sur votre cœur. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Mais l'évangéliste et l'apôtre Jean se pose la question, mais comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la bouche, mais en action et avec vérité. Vous savez, l'évangile, il n'y a rien de plus concret que l'évangile. Il faut que cette parole soit pratique. On peut connaître beaucoup de choses. D'ailleurs, la Bible dit que la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Même notre foi, puisque nous sommes des croyants, donc on est des gens pleins de foi. Cette foi, elle est manifeste par l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Mais un amour qui est concret, qui se manifeste par des actions concrètes. Un amour qui se fait eh bien, avec vérité. C'est tellement important. Si quelqu'un possède, si tu sais que ton frère est dans le besoin. Et je bénis le Seigneur, je renchéris par rapport à cette association culturelle que nous avons eue dimanche dernier. Même moi-même en tant que président, je suis émerveillé de voir eh bien, tout ce que le Seigneur eh bien, il a fait avec chacun d'entre vous. Vous avez été généreux, vous avez béni le prochain. Et toutes ces choses sont notées, ne vous inquiétez pas, sur le journal de souvenirs du Seigneur. Et en temps et en heure, il saura eh bien, nous rembourser, nous bénir en retour, même du verre d'eau qu'on aura tendu eh bien, à notre prochain, à notre frère et à notre sœur. Comment eh bien, manifester ou quelque part rembourser eh bien, la dette d'amour que nous avons à l'égard de notre prochain, là aussi notre piste, en s'associant aux joies et aux peines du prochain. Un texte que j'aime beaucoup, il se trouve également dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est comme cela aussi, eh bien, que je pourrais m'acquitter de ma dette, eh bien, cette dette d'amour à l'égard de mon frère, de ma sœur. en sachant se réjouir avec celui qui se réjouit. On peut pas se réjouir avec celui qui pleure. Ce serait un non-sens. Et également, pleurer avec ceux qui pleurent. Moi, je bénis le Seigneur pour ce qui s'est passé ces dernières semaines. Rappelez-vous, avec cette jeune fille, eh bien, dont je tairai le nom, et qui a attenté à sa vie. Toute une église, j'ai vu toute une église s'associer. Dans la prière, il y a même eu une chaîne de prière. Ces choses venaient de Dieu. Quelquefois, Dieu permet certaines épreuves, tout simplement, eh bien, pour développer chez nous certaines choses. Et il nous a aidé à pouvoir nous unir les mardis de manière particulière, parce qu'on n'est pas dans des stéréotypes. On a même arrêté la façon de faire, eh bien, pour pouvoir nous concentrer sur certains sujets qui nous tenaient à cœur. C'est avec le couple Montandre, on est parti voir il y a quoi, 2 jours de cela, une personne complètement méconnaissable. Elle qui, parce que j'avais déjà eu un premier entretien avec elle. Elle qui ne était même à remettre en cause même l'existence de Dieu, plein de choses. On l'entendait parler, même son visage a littéralement changé. Frères et sœurs, ça c'est le fruit de la prière de l'Église. Et c'est bien sûr l'action puissante du Saint-Esprit qui ramène à la vie ce qui était mort. Elle cherchait à mourir. Mais Dieu lui a fait grâce. Elle nous disait, moi j'étais là, la bouche ouverte. Elle nous disait, mais Joël, c'est comme si je revenais à moi-même. Elle est sortie de son cauchemar, d'ailleurs, très rapidement, elle sortira de là où elle est, parce qu'elle n'a plus lieu de rester. À la fin, on a dit, bon, est-ce que tu veux qu'on comprenne ? Mais bien sûr ! Et qui a commencé ? C'est la personne. J'ai failli dire le nom. Pour rester dans l'anonymat, c'est tellement important. Elle m'a dit, Joël, si tu me permets, eh bien, un de ces quatre, je pourrais donner gloire à Dieu. Elle était dans une mauvaise passe. Vous savez, ce qui arrive à l'autre, ça peut nous arriver à un moment donné. Et on a besoin des frères et des sœurs. Et c'est en cela, bien que la prière est efficace. Et par la prière, je peux me réjouir avec mon frère ou ma sœur. Mais aussi par la prière, je peux pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a des tristesses, il y a des souffrances qui sont là, insoupçonnées. Et on continue, nous, à regarder notre nombril. Mais peut-être que celui qui est à côté est en danger de mort. Et on a besoin de le considérer, on a besoin de le réaliser. Rappelez-vous ce que eh bien Dieu lui-même a posé comme question à notre ami Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Et monsieur Caïn a répondu, je ne sais pas. Premier péché, menteur. Et il va continuer, il va dire, suis-je le gardien de mon frère? Tiens, je pense que le bac il est bientôt fini, mais ça aurait été un bon sujet de philo. Suis-je le gardien de mon frère? Alors je viens à l'église, je m'assois à ma place, et que personne ne s'assoie à ma place. Je prends mon pain, mon vin, je reçois ce que j'ai besoin d'entendre de la parole, et je repars. On est inconnu au bataillon. Suis-je le gardien de mon frère? Il n'est pas question de se surveiller les uns les autres, mais il est question de veiller les uns sur les autres. Et c'est là toute la nuance. Parce que quelque part nous formons un seul et même corps. 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 24 à 26. Est-ce que tu l'as récupéré ma sœur? Super. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps spirituel de Christ, l'Église. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Dieu ne veut pas de division parmi son peuple, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Il est parlé de soin, avoir soin de son frère, de sa sœur. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est la réalité. Si quelqu'un marche mon petit orteil, c'est ma bouche qui va s'exprimer. Mais mon corps va sautiller, donc tout le corps réagit. Si tout le reste du corps ne réagit pas, il y a un problème. C'est que, quelque part, mon petit orteil est mort. Il ne faudrait pas que le corps de Christ, il y ait des parties des membres qui soient morts. Si tu es vivant, tu vas réagir. Tu ne resteras pas indifférent. Tu n'appliqueras pas la doctrine de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Mais parce que tu es rempli de l'amour de Dieu. Tu vas arrêter de te centrer sur toi-même, mais tu vas regarder comment, d'une manière ou d'une autre, tu peux être concret à l'égard de ton frère et ta sœur. Vous savez la différence entre le bébé spirituel et puis l'homme spirituel? Le bébé spirituel, et on l'a entendu tout à l'heure au travers d'un don spirituel, il crie, il demande, il est dans l'attente, il a besoin, il veut recevoir. Quand on est homme spirituel, on se soucie plus de pouvoir, tiens, je vais venir au culte, mais qu'est-ce que je vais recevoir? Non. Seigneur, je suis à ta disposition. Comment puis-je être utile ? Voilà l'homme mature. Parce que tout n'est plus centré sur lui, mais il est centré à bien sur son frère, sur sa sœur. Parce qu'il a compris, parce qu'il arrivait à une certaine maturité, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Allez, il me faut terminer. Et je ne pouvais pas ne pas parler de ce dernier point. Comment remplir ce devoir ? Comment rembourser cette dette d'amour à l'égard de mon frère, de ma sœur, mais de mon prochain de manière générale ? En partageant la bonne nouvelle de Jésus-Christ à notre prochain. Ah, j'ai entendu un seul amen, mais je comprends que c'était tellement évident que vous n'avez pas osé dire amen. Mais moi, je dis amen. Et c'est encore l'apôtre Paul qui va dire dans Romains chapitre 1, versets 13 à 16, il va dire la chose suivante, dans un des courriers s'adressant aux chrétiens qui se trouvaient à Rome. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Et regardez ce qu'il dit au verset 14. « Je me dois aux Grecs et aux barbares. Je me dois également aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir que vous annoncez aussi, de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Et au verset 16, il va rajouter, « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Parce que c'est ça, quelquefois, le problème, ou ce qui pourrait nous arrêter, nous empêcher, eh bien, de pouvoir nous acquitter de ce devoir de propager la bonne nouvelle, surtout quand le Saint-Esprit nous pousse à le faire. Quelquefois, c'est la honte. Quelquefois, c'est la crainte. Je le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Même la timidité. Ah, mais comment la personne va me recevoir ? Comment ? Et je vous le dis, par la grâce de Dieu, là, on laisse passer donc le temps de vacances, parce qu'il y a un temps pour toute chose, il y a aussi un temps pour se reposer, mais à la rentrée, on va continuer encore à développer ce travail d'évangélisation. Nous sommes appelés les uns les autres à être des ouvriers avec Dieu. Et il attend que chacun dans notre sphère, dans notre manière, en prenant en compte aussi notre personnalité, de pouvoir être tous des poteaux indicateurs, des flambeaux dans notre monde, pour éclairer tous ceux et celles qui sont autour de nous et qui ont besoin de connaître l'évangile de Jésus-Christ, ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. La mission d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle au prochain, est aussi un devoir d'amour. C'est un devoir que l'Église en général, et le chrétien en particulier, doit prendre à cœur. Partager l'évangile est une question de vie ou de mort. Quelquefois, on l'oublie. Et c'est pour ça que Dieu même a permis à certaines personnes de voir en vision ces hommes, ces femmes être jetés dans ces lieux de tourment qu'on appelle communément enfer. Un lieu qui était au départ réservé pour le diable et pour ses anges, mais qui est malheureusement destiné aussi à ceux et celles qui refusent la grâce de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, qui est un don gratuit. Et plusieurs ont eu des visions, ces gens qui viennent à tomber littéralement. Vous savez, quand les gens, il y a beaucoup de personnes qui vont mourir aujourd'hui. S'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu, ils vont dans ce lieu de tourment pour souffrir d'une manière éternelle, frères et sœurs. Parce qu'il n'est plus question du corps. Le corps, il retourne à la poussière. Mais notre esprit retourne à Dieu et cette partie immatérielle, mais aussi éternelle, est destinée à être loin de Dieu. C'est ça l'enfer, être loin de Dieu. Dans des tourments pris de remords. Ah, mais si je savais, si près du but, il y a des gens, ils sont tout près de la porte du salut, mais ils ne veulent pas entrer. Hein. Alors, ce n'est pas à nous de convaincre les gens. Par contre, notre devoir, c'est de pouvoir les avertir. Et les avertir, non pas pour casser la tête des gens, parce qu'on peut tomber d'un extrême à l'autre. Il y en a, dès qu'on les voit, on fuit de loin. Parce que ça manque de sagesse. Je parle de ces moments où même au milieu de nos vacances, alors qu'on est en train de se bronzer, bon, j'ai pas besoin moi de me bronzer, mais même qu'on est en train de bronzer, on sent le Saint-Esprit qui nous pousse. On est avec une personne tranquillement, la plage est devant nous, etc. On vient de prendre un bon bain, etc. On veut souffler un peu, on a le droit ou non. Mais on sent néanmoins le Saint-Esprit qui est à côté de nous et qui nous dit, tu vois cette personne qui t'a abordé. Je l'ai envoyé moi-même, j'ai disposé son cœur pour que tu puisses lui parler du Seigneur. Même en tendant la main, en donnant un évangile, on peut être surpris, même dans le ciel, et revoir cette personne qui va venir vers vous et vous dire merci parce que à cet instant T, tu as contribué à ce que je puisse découvrir le Seigneur. C'est ça être ouvrier avec Dieu. C'est ça de pouvoir nous acquitter de cette dette d'amour. Je vais même plus loin, j'extrapole. Mais finalement, eh bien, en restant la bouche fermée, est-ce que c'est pas, quelque part, une non-assistance à personne en danger? On a besoin d'ouvrir la bouche. Mais je ne sais pas quoi dire. Ouvre la bouche par la foi et Dieu te mettra les paroles dans la bouche. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'impose ce devoir sans ménagement sur sa personne. Il va dire 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. 1 Corinthiens 9 verset 16, c'est le dernier verset. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Un jour, nous comparaîtrons devant le Seigneur. Et toute notre vie sera déroulée devant nous. La Bible nous dit que là-haut, eh bien, toute connaissance nous sera accordée. Et toutes ces occasions où nous devions parler et nous ne l'avons pas fait, Dieu voudrait aujourd'hui les échanger avec des occasions que nous allons même eh bien saisir pleinement afin d'ouvrir la bouche et laisser le Saint-Esprit parler par notre bouche. On est tous potentiellement des évangélistes. Même sans parole, par nos attitudes, en payant nos impôts, en étant honnête, en étant droit, en étant intègre, nous proclamons l'évangile. Nous répandons le bon parfum de Jésus-Christ. Que dire en conclusion ? Vous savez, notre problème avec la Bible, c'est pas tant que cette dernière est pas trop claire. Non, on le sait très bien, la Bible, elle est claire. D'ailleurs, certains spécialistes ont dit que lorsqu'on lit les évangiles, je crois que c'est l'évangile selon Saint Marc, il a été inspiré pour que même un enfant de quelques années puisse arriver à le comprendre. Un enfant de 7-8 ans arrive à comprendre facilement l'évangile. La parole de Dieu est accessible. Ce qu'on a partagé ce matin, est-ce que c'était clair? Ou autrement, je recommence. Hein. On a compris, on a tous compris que le devoir du chrétien consiste à honorer ses dettes. Il n'y a pas plus clair. Et si vous n'avez pas compris, on va prendre un entretien après. À honorer et respecter les autorités. Je ne peux pas moi-même moquer de celui qui est placé là, établi là, même si on ne cautionne pas tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent faire, mais on peut prier pour eux. On a compris aussi que d'aimer le prochain, de l'amour de Dieu, je précise, restera toujours une dette qu'il nous faudra honorer toute notre vie, jusqu'au retour du Seigneur. On est d'accord sur ça. Non, notre problème, c'est pas tant qu'on ne comprend pas la Bible. Notre problème relationnel avec la Bible, c'est que lorsqu'on l'écoute, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le problème. Notre problème avec la Bible, c'est que quelquefois on a de la réticence à pouvoir la mettre en pratique. On a même quelquefois de la rébellion à pouvoir la mettre en pratique. C'est pourquoi la question suivante, elle est à propos. Que vais-je faire de ce que Dieu m'a dit aujourd'hui? Vais-je la contester? Vais-je continuer à la rejeter? Ou plutôt, vais-je chercher à la mettre en pratique? Vous savez, Jésus a dit cette parole dans Jean chapitre 13 et le verset 17, ne le cherchez pas. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et j'ai envie de nous dire, permettons-nous d'être heureux. Il y a tellement de tristesse. Et les gens sont tristes parce que, quelque part, ils ne vivent pas ce à quoi ils ont été appelés, ce à quoi ils ont été même créés. On est heureux lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu. Alors j'ai envie de nous dire, permettons-nous d'être heureux en mettant en pratique la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à les mettre en pratique. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est vrai, nous sommes inexcusables. Ta parole, elle est claire, nette et précise. Donne-nous un esprit d'obéissance. Seigneur, Père, mon Dieu, donne-nous un cœur qui est réceptif, Seigneur, à tout ce que tu veux nous dire. Oui, Seigneur, ça a été dit en introduction à la Sainte-Cène. Toi, tu te plais à l'obéissance. Plus que les sacrifices, plus que notre louange, plus que ce que nous pourrions exprimer, montrer. Tu veux un cœur obéissant devant toi. Et toi seul es capable de nous aider à créer, à avoir ce cœur qui est plein de diligence par rapport aux exigences de ta parole. Seigneur, tu as parlé certainement à plusieurs ce matin. Et tu vas permettre que même cette semaine, nous puissions rectifier le tir pour continuer à progresser sur le chemin de la sanctification. Et tu vas nous donner à pouvoir avoir une conscience qui est intacte, qui est plus que jamais aiguisée, mais qui est surtout pas, Seigneur, morte ou même mutilée. Je te prie dans ta grâce, aide-nous à obéir à ta parole, afin qu'en retour nous soyons heureux, et nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen.